Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Renaud Van Ruymbeek
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Renaud Van Ruymbeek.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu, ça vous fait sourire d'entendre votre journal inattendu.
Eh oui, c'est mon journal.
On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Ancien magistrat, votre nom est associé au plus grand scandale politico-financier de notre époque. Boulin, Clearstream, Elf, Urba, l'affaire Kerviel et d'autres. Vous êtes le visage de la lutte anti-corruption. Vous avez écrit un livre passionnant, Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Taillandier, où vous nous racontez comment vous avez vécu ces 40 années d'affaires, mais aussi comment la justice, sur toutes ces années, a réussi à s'émanciper des mains du pouvoir politique. Il paraît que vous impressionniez dans votre bureau au moment des auditions, on n'en doute pas. Par chance, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions et qui vais tenter de vous faire découvrir autrement à nos auditeurs. Notamment à travers votre regard sur l'actualité, votre reportage inattendu qui nous donnera envie de nous mettre à la permaculture, à travers votre invité, une grande pianiste, ou encore, comme c'est le rituel au début de cette émission, à travers l'autoportrait. Pour commencer, je vous donne une minute pour vous présenter. Alors Renaud Van Ruymbeek, qui êtes-vous ?
Eh bien d'abord, c'est, vous l'avez dit, c'est moi qui suis impressionné aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé un peu dans ma vie pour la justice. Et comme je ne savais plus quoi faire en ayant pris ma retraite il y a 18 mois, je me suis laissé convaincre d'écrire le livre que vous avez cité avec ce titre « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Ça fait sourire parce qu'on est indépendant ou on l'est pas. C'est un petit clin d'œil à ma hiérarchie quand j'étais jeune. C'est ce qu'on m'a mis dans ma notation. Il est trop indépendant, va falloir qu'il se calme, va falloir qu'il fasse preuve de davantage de retenue. Malheureusement, j'ai pas du tout suivi leur conseil. Oui, heureusement ou malheureusement pour ceux peut-être auxquels j'ai eu affaire. J'ai consacré ma vie, une bonne partie de ma vie professionnelle à l'instruction des affaires financières. Et j'ai voulu, à travers cette expérience, expliquer à nos auditeurs comment fonctionne la justice, comment elle dysfonctionne, quels sont les problèmes qu'elle peut rencontrer, notamment dans ces grandes affaires où j'ai été confronté au pouvoir. Donc c'est l'évolution aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a considérablement évolué. Donc voilà, je voulais expliquer un peu aux gens comment ça marche. C'est un petit peu un retour en arrière. En même temps, j'ai voulu faire un constat. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Parce qu'on peut changer beaucoup de choses, il y a des grandes réformes à faire dans la justice. Et puis, j'ai voulu aussi aborder le deuxième thème, parce qu'il y a ce thème justice et pouvoir, le thème des paradis fiscaux, des offshore, de tout ces masses d'argent, on parle de milliards d'euros, c'est énorme, qui est caché, qui est fraudé, c'est de l'argent de la corruption, de la drogue, et auquel on ne touche pas aujourd'hui, alors que les États sont confrontés à cette pandémie, avec ces déficits considérables. Il faudra bien un jour payer l'addition. Alors moi, j'aimerais bien que cette addition elle soit payée avec cet argent-là, plutôt que avec mes enfants ou par mes enfants ou mes petits-enfants.
Ces paradis fiscaux seront au programme de notre journal inattendu, mais aussi l'actualité. Les grands titres, deux personnes placées en garde à vue ce matin suite au meurtre d'un garçon de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Le drame s'est produit hier en fin d'après-midi. Il s'agirait une nouvelle fois d'un règlement de compte. C'est le troisième décès d'un adolescent en une semaine. Dans ces circonstances, nous serons en direct de Bondy dans un instant. La joie des libraires et des écrivains dans ce journal. En effet, les librairies sont désormais officiellement considérés comme des commerces essentiels et pourront rester ouvertes pendant le confinement. C'est aussi le cas des disquaires. L'actualité sportive avec ses gros changements au sein de l'Olympique de Marseille, nouveau président Pablo Longoria, nouvel entraîneur Georges Sampaoli, parviendront-ils à sortir l'OM de la crise ? Nous retrouverons notre correspondant à Marseille. La météo, c'est avec vous, Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Céline.
Ce week-end, il fait beau, mais tout de même un peu frais.
Oui, on a encore perdu quelques degrés ce matin. On a même eu un petit peu de givre dans le nord et le nord-est, mais on a juste des températures de saison finalement. On sera même un petit peu au-dessus cet après-midi avec une moyenne de 9 à 16 degrés du nord nord au sud. Côté ciel, c'est le soleil qui domine, mais on a quand même quelques nuages hein, ce matin au pied des Pyrénées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ira mieux dans le courant de l'après-midi avec le retour des éclaircies sur ces secteurs. Les nuages se décaleront vers la région PACA pour apporter un petit peu de pluie. En résumé, Ophélie, on garde nos lunettes de soleil, mais on se couvre.
Merci Céline, on vous retrouve à 18h.
Avec plaisir.
À 13h, c'est vous, cher invité, qui faites la météo.
D'accord.
Et vous avez toutes les informations.
Merci.
Le journal inattendu sur RTL.
C'est le troisième adolescent qui décède en une semaine suite à un probable règlement de compte entre bandes rivales. Dernier décès en date hier à Bondy. Eman, un jeune garçon de 15 ans, a été tué par balle dans l'après-midi. Ce matin, deux personnes ont été placées en garde à vue. Nicolas Burnens, vous êtes à Bondy pour RTL. Dans la ville, depuis hier soir, c'est la stupéfaction. Hein.
Oui, devant le rideau de fer baissé de la maison de quartier, des habitants viennent spontanément déposer des fleurs et des bougies. Cathy, une mère de famille, a toujours de la peine à réaliser ce qui s'est passé.
Pour nous, le centre, non seulement dès là, c'est un endroit sécurisé pour nos enfants, qu'ils viennent pour se détendre un petit peu. Comme vous voyez là, avec la crise, tout est fermé. Ça peut être mon fils, le fils de la voisine, n'importe qui là. J'espère que ça va s'arrêter, hein. C'est trop dur. Là.
La victime âgée de 15 ans ne serait pas connue des services de police. L'adolescent est décrit comme sans problème, sportif, membre du club de boxe local. Hier, il a été abattu de plusieurs balles alors qu'il était à l'intérieur de la maison de quartier, avant que le tireur et son complice prennent la fuite en scooter. Hassan, l'un de ses amis, cherche aujourd'hui à comprendre.
C'est une personne super gentille. Il donnait tout de lui-même pour que les autres gens sourient et du bonheur en eux. Il nous appelait mes frères. Il n'avait aucune haine contre personne. C'était un gars en or. Je l'aimais trop. C'était la fin des vacances. Il a repris l'école lundi. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé ici. Je n'y crois toujours pas. Tout le monde se pose la même question. C'est pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Ce midi, deux hommes âgés de 19 et 27 ans sont placés en garde à vue. Ils se sont rendus à la police à Bobigny. Il pourrait s'agir des deux auteurs présumés, mais l'enquête ne fait que de débuter.
Merci Nicolas Burnens. On vous retrouve dans nos prochaines éditions en direct de Bondy. Ce matin, le secrétaire national du syndicat SGP Police, Grégory Joron, était l'invité d'Agnès Bonfillon. À ce stade de l'enquête, il privilégie la piste du règlement de compte, mais accuse aussi le fonctionnement de la justice face à ces mineurs.
Voilà, on est au bout de chaîne. On est malheureusement responsable finalement de l'échec de la chaîne éducative, de l'éducation nationale aussi, de l'insertion, de la politique de la ville. Et ceux qui ramassent ça, on va dire entre guillemets, sur la voie publique, ce sont les policiers. Et en plus, il faut le dire aussi, il y a bien évidemment la responsabilité des parents, mais moi je dirais aussi qu'il y a une certaine responsabilité de la part de la justice. Il y a une absence totale de réponse pénale qui fait que le sentiment d'impunité se développe de plus en plus au sein de la délinquance.
Je vous vois très attentif, Renaud Van Ruynbeck. Mmh. Les mots de Grégory Joron sont durs hein, envers la justice, absence de réponse pénale, sentiment d'impunité. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord? Et si oui, pourquoi n'arrive-t-on pas à mieux encadrer ces mineurs?
Je comprends ce que dit le policier. Et c'est vrai qu'il y a des faits pour lesquels il faut de la fermeté. C'est évident, il faut que la réponse de la justice soit ferme. Maintenant, le discours, la justice relâche tout le monde, elle fait pas son travail. Je l'ai entendu depuis toute ma carrière. Bon, moi, je me suis pas occupé de ce type d'affaires, mais bon, j'écoute, si vous voulez. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que lorsque la justice a affaire à des mineurs délinquants, il y a des juges pour enfants, vous pouvez pas faire uniquement de la répression. Il faut aussi rééduquer. Malheureusement, les banlieues elles existent, les bars aussi, donc il y a des situations la justice n'est pas responsable de ça. Faut aller réparer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez un jeune de 15-16 ans qui commet des vols, vous allez le mettre en prison comme ça, et après il va récidiver, etc. Donc il y a aussi une part d'éducation, de rééducation, de prévention. Donc il y a une répression nécessaire, bien sûr, face aux actes graves, mais il y a aussi la notion de réinsertion. Et je pense que la police, par exemple, il y a eu une époque, la police de proximité. Ben voilà, et je trouvais ça très bien, c'est dialoguer aussi. Alors évidemment, quand vous avez des bandes avec des faits comme ça, le dialogue n'est plus... On a dépassé ce stade, mais
oui,
c'est
le
travail en amont.
Le dialogue est très compliqué entre la police et ces bandes-là en plus.
Comment ?
Le dialogue est très compliqué entre la police et ces bandes-là.
Oui,
en plus,
mais
de plus en
plus. De plus en plus. Il faut essayer de le restaurer. Je crois à ça. Vous voyez, la police de proximité, les policiers qui sont là, pas uniquement pour faire la répression, mais pour être présents, pour discuter, pour aider, pour jouer au foot avec les jeunes. C'est cette conception-là éducative qui est importante. On ne peut pas uniquement se dire on va réprimer, on va réprimer, on va réprimer. Il faut réprimer les actes graves, évidemment, mais il faut aussi avoir à l'esprit que face à des jeunes, il faut les aider à se réinsérer, sinon vous allez en faire quoi ? Vous allez en faire des délinquants en puissance, vous allez constamment courir après, ils vont commettre d'autres choses, etc. Donc c'est pour vous dire, c'est pas aussi simple. Voilà.
Et à 13h, un document exceptionnel, nous avons joint le professeur de boxe de la jeune victime, il est bouleversé. On ouvre notre page crise sanitaire avec cette bonne nouvelle. C'est officiel, les librairies ont le statut de commerce essentiel. Cela veut dire qu'en cas de confinement, elles pourront rester ouvertes. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'en est félicitée, mais aussi de nombreux écrivains qui se sont battus pendant des mois pour défendre les libraires. Écoutez la joie de l'écrivain Alexandre Jardin, il est au micro de Valentin Boisset.
Ah oui, je suis content. Il faut toujours se battre pour ses valeurs. Et ça, c'est une vraie victoire collective. On rétablit la France dans ses valeurs. Il n'y a rien de plus joyeux que lorsque ce pays arrête d'être indigne. J'adore ça. C'est-à-dire, la France et le livre, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'identité. On est l'autre peuple du livre. À force d'emmerder le gouvernement, on a aussi aidé Bachelot à gagner. Et tout à coup, les librairies sont des commerces essentiels. Prenons soin nous-mêmes de notre pays. Lorsqu'on voit un truc qui déconne, bougeons-nous le cul.
C'est une bonne nouvelle pour vous aussi, Renaud Van Ruynbeck. Vous venez de défendre un livre.
Oui, alors j'en suis ravi.
Et justement, cette nouveauté est applicable dès ce week-end à Dunkerque ou encore à Nice, qui, vous le savez, sont confinés à cause d'une flambée épidémique. Depuis ce matin, la police est très active sur le terrain pour s'assurer du bon respect de ces mesures sanitaires. Je rappelle que 20 départements, dont le Rhône, les Bouches-du-Rhône ou encore les Hauts-de-France, sont placés sous surveillance accrue par le gouvernement et pourraient, eux aussi, vivre des week-ends confinés. Le Premier ministre Jean Castex se laisse une semaine pour prendre une décision en concertation avec les élus locaux. Un mot sur la vaccination. Aux États-Unis, des doses fabriquées par le laboratoire Johnson & Johnson pourraient très bientôt être mises sur le marché. Ce nouveau vaccin présente deux avantages logistiques importants. Il ne s'administre qu'en une seule dose et peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Renaud Van Ruynbeck, je doute que nos auditeurs le sachent, mais vous êtes d'une certaine manière lié à l'Olympique de Marseille, qui est en plein dans l'actualité, vous confirmez. Ouais. Vous avez trois grands-oncles et un grand-père qui ont porté le maillot de l'OM dans les années 1920.
Oui, et avec succès, je dois dire, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France. Et je suis très fier de mon grand-père, qui était gardien de but, et qui a gagné, je crois, trois fois la Coupe de
France.
Gardien de but de l'OM. Non, c'est de cœur.
Grande fierté.
C'est une fierté, puis je dirais que l'OM, c'est particulier. Voilà. C'est
alors,
la ville
l'OM,
qui vit,
justement.
C'est tout ça, c'est chaleureux, c'est... Bon, avec des excès, hein, on le voit malheureusement quelquefois, mais il y a le cœur est là, quoi.
Dans la tourmente, hein, vous le savez, grosse actualité pour le club marseillais, son propriétaire américain, Frank McCourt, vient d'annoncer de profonds changements, à commencer par l'éviction de son président, Jacques-Henri Hérault. On retrouve notre correspondant à Marseille, Hugo Hamelin. Bonjour Hugo. Après plusieurs semaines de crise, c'est un nouveau chapitre important, hein, qui s'ouvre pour l'OM.
Oui, c'est surtout la page Jacques-Henri Hérault qui se tourne après 4 ans et demi à la tête du club. Énorme soulagement du côté des supporters avec qui il était en guerre ouverte depuis des semaines. Alors c'est vrai que sa position était devenue intenable. Hein. De nombreuses personnalités marseillaises avaient co-signé une tribune la semaine dernière pour réclamer son départ. Les membres du groupe IAM, Patrick Bosso, d'ancienne gloire du club. Donc il était vraiment acculé avec ces personnalités venues de tous horizons. Même le maire de Marseille avait essayé de le recadrer. Et donc Pablo Longoria, qui était jusqu'ici directeur sportif, va le remplacer à la présidence. Il a seulement 34 ans, il n'a jamais eu d'expérience à ce niveau. Il est arrivé à Marseille il y a seulement 6 mois. Donc c'est un chapitre plein d'incertitudes qui s'ouvre du côté de l'OM. On sait que les supporters marseillais ont mis une pression d'enfer sur Jacques-Henri Hérault pour qu'il quitte le navire, notamment en envahissant, pour certains, le centre d'entraînement de la commanderie. C'est un paramètre parmi d'autres, mais j'ai envie de demander au juge Van Ruynbeck ce qu'il pense de cette justice populaire, de cette vindicte populaire qui finalement obtient gain de cause.
Bah, disons que les dérapages qu'il y a eu, je peux évidemment pas adhérer à ce genre de procédé. Maintenant, que les supporters, qu'on écoute les supporters qui aiment tel joueur, qui aiment tel entraîneur ou qui veulent le rejeter, ça me paraît légitime. Ce sont quand même eux, là, c'est l'âme du club. C'est pour eux, ils sont là, ils viennent régulièrement, ils applaudissent, ils encouragent. Et regardez comme c'est triste aujourd'hui ces matchs qu'on voit à la télé. Il y a pas d'ambiance,
il y a public.
Pas c'est dramatique. Je veux dire, bon, alors effectivement, il faut sanctionner les excès, c'est normal. Les supporters doivent aussi respecter leur club. Mais il y a quand même un élan. Et puis, je dirais que pour les jeunes, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont pas de travail, qui sont un peu perdus et tout. Il y en a aussi là-dedans qui sont là, ils se retrouvent collectivement. Bon, c'est la jeunesse aussi qui vit, hein, voilà. Donc, voilà, faut sanctionner les excès quand ils sont là, mais il faut aussi les écouter.
Hugo, le nouvel entraîneur est l'Argentin Jorge Sampaoli. Est-ce qu'il sera l'homme de la situation ?
En tout cas, pour renouer avec le public marseillais, c'est quasiment le choix parfait parce que c'est un entraîneur au tempérament explosif, disciple de l'Argentin Marcelo Bielsa, avec une importante expérience à l'étranger également. Il a notamment remporté la Copa América en 2015 à la tête du Chili. Alors le problème avec Sampaoli, c'est que ses histoires d'amour avec les différentes équipes finissent mal en général et assez vite. Mais Marseille pourra patienter encore un peu avant une nouvelle crise. L'Argentin est attendu à Marseille aujourd'hui ou demain pour relancer donc l'Olympique de Marseille.
Merci beaucoup Hugo Hamelin, correspondant à Marseille pour RTL. Marseille qui jouera demain à 21h contre Lyon, et en attendant les affiches de cette 27e journée de Ligue 1, Bordeaux-Metz à 13h et Dijon-PSG à 17h. Alors entre le foot et la justice, il n'y a qu'un pas. Vous, hein, finalement, Bruno Van Ruynbeck, ce livre, au départ Mémoire d'un juge trop indépendant, vous l'avez dit, vous ne souhaitiez pas l'écrire. Poussé par des proches, vous avez fini par vous y plonger. Vous y avez pris du plaisir ?
Du plaisir, c'est pas le mot. J'étais réticent. J'ai toujours écrit sur les autres. Hein. Vous savez, quand vous êtes à l'instruction, vous racontez des histoires qui sont pas la vôtre, de la façon la plus neutre possible. Donc déjà, raconter mon histoire, c'était déstabilisant. Et c'est un journaliste qui est réputé qui m'a poussé à le faire, Jean-Marie Ponto, d'ailleurs, qui m'a aidé aussi à concevoir ce livre. Et petit à petit, je m'y suis mis. Et alors maintenant, je me le suis complètement approprié. Je suis très content de l'avoir fait.
Il y a un moment extrêmement frappant dans votre livre. C'est le début de votre carrière. L'affaire Robert Boulin, ministre du Travail, qui s'est suicidé en 1979, accusé d'avoir acheté un terrain dans le Var de manière irrégulière. Il laisse une lettre avant de se donner la mort, vous accusant d'être un juge ambitieux et haineux de la société. Vous avez 27 ans. Vous travaillez depuis 2 ans. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « qu'est-ce que j'ai fait ?»
Bien sûr.
Est-ce que je me suis trompé de vocation ?
Est-ce que je suis allé trop loin ? C'est à une époque où la justice, les affaires financières, elles ne remontent pas. Et là, j'ai commencé à remonter sur une affaire de terrain. Bon, et j'ai enquêté sur ses comptes et je m'apprêtais à le convoquer. Il était ministre depuis longtemps, c'est un personnage important. Son parti est au pouvoir. Mais j'ai des principes, égalité de tout le monde devant la loi, donc je fais mon travail. Et tout d'un coup, j'apprends sa mort. Et le lendemain, est publiée une lettre qu'il a envoyée à ses proches en expliquant les raisons de son geste. Et alors là, en me traitant de juge haineux, ambitieux, haineux de la société, etc. Et je me prends ça vraiment en pleine figure en écoutant les infos à 13h. Quand je vais l'après-midi à mon bureau, oui, qu'est-ce que j'ai fait ?
Sentiment de solitude.
À total,
extrême.
L'effondrement. Je ne peux pas répondre. Déjà, un juge ne peut pas répondre, mais en plus, quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Donc c'est terrible ce qui se passe là. Et là, je me remets complètement en cause en me disant, mais est-ce que tu as bien fait ? Est-ce que tu n'en as pas trop fait ? Est-ce que si, ça ? Et puis... rayon de soleil. Dans l'après-midi, j'ai mes collègues du tribunal de Caen qui se réunissent.
Et qui vous soutiennent.
Et qui lisent une motion de soutien. Le procureur également. Dieu sait si les procureurs n'étaient pas toujours bons. Mais il intervient en disant non, il a fait son travail. Et donc ça m'a. Mais je me suis dit, ben oui, mais t'as fait ton boulot. Donc qu'est-ce que. T'as été au bout. Mais je n'ai même pas été au bout puisqu'il est mort. Donc... Et j'ai eu droit alors. Inspection, enfin, comment dire, une visite des membres du Conseil supérieur de la magistrature, désignés par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour voir si j'avais bien fait mon travail. Ils vont conclure que j'ai fait mon travail. Et puis le procès aura lieu, celui qui est présenté pas Robert Boulin comme un escroc avec lequel j'aurais soi-disant commis, signé un pacte. Imaginez signer un pacte avec quelqu'un qui serait un escroc et le garde des Sceaux, Alain Perfit de droite, qui aurait été rival de Robert Boulin et qui aurait voulu l'éliminer parce qu'ils étaient soi-disant candidats Premier ministre. Enfin, une histoire de fou. Donc on est revenu à des choses plus sensées. Le procès a eu lieu, le personnage principal a été condamné, la procédure a été validée, j'ai fait mon travail et je suis passé. Ça a été une épreuve terrible, mais justice a été rendue.
D'ailleurs, vous dites, et c'est extrêmement touchant, on vous pose souvent la question, quelle est l'histoire, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué? Vous avez eu longtemps du mal à répondre. Oui. Et finalement, vous dites dans ce livre que c'est celle-ci.
Oui, ce sont les vertus thérapeutiques. J'allais m'installer sur le divan tout à l'heure, mais du bouquin
mais
qui
si
fait
vous
que bah, vous réfléchissez bah, finalement. Puis je me rends compte que c'est la première affaire qui a été la plus marquante pour moi.
On va continuer à parler de votre livre, mais vous parlez de vertus thérapeutiques. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup accompagné pendant votre carrière et qui continue, c'est la musique classique. Chopin, Beethoven, Schubert, Liszt ou encore Vivaldi. L'une de vos musiques préférées, c'est Stabat Mater de Vivaldi. Dans un instant, on le disait tout à l'heure, on parle paradis fiscaux, un de vos grands combats. A tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Le journal inattendu de Renaud Van Ruynbeek.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et votre livre « Mémoire d'un juge trop indépendant ». Vous êtes le premier à avoir eu le cran, si je puis dire, de perquisitionner le siège d'un parti politique, en l'occurrence celui du Parti Socialiste. Vous cherchiez des preuves d'un financement occulte de ce parti sur place. Vous avez évidemment été extrêmement mal accueilli. Vous ressortirez de là 21h, je crois, après le journal de 20h. Quand vous sortez, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous sentez? Première fois qu'un juge perquisitionne le siège d'un parti politique. Ça ne se faisait pas du tout à ce moment-là.
Le ciel me tombe sur la tête. Vous l'avez
une
rappelé.
Nouvelle fois.
Vous l'avez rappelé, il m'est déjà tombé sur la tête avec l'affaire Boulin. Là c'est... Enfin, dans toute cette perquisition dans le parti, ça a été des agressions verbales, vous n'avez pas le droit. C'est la première fois qu'un juge perquisitionne un parti politique. Donc, c'est une atteinte intolérable à la démocratie. Quelle est votre légitimité? Vous êtes juge. Enfin, en gros, vous n'êtes pas élu. Nous, on est élu. Je leur disais, mais vous n'êtes pas au-dessus des lois, il me semble. Bon, j'ai des raisons de venir. Et alors, quand on sort, je sors à 21h, pour l'anecdote. Moi, j'ai terminé vers 19h, ce qui est déjà pas mal. On a ramassé pas mal de documents avec les policiers.
Et là, 19h, ce qu'on vous dit est à peine croyable.
Oui,
19h, 20h, il y a le...
Ah non,
la grand masse
pas
du
maintenant,
20h.
Il y a le 20h. Je dis, attendez, on a terminé. Ah non, mais écoutez, vous pouvez pas faire ça. Et là, il me supplie de rester. Est-ce que vous acceptez de sortir plus tard? Bon, je dis oui, je suis pas une heure près, je comprends. Je veux dire, bon, en plus la médiatisation, moi j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de médiatisation. Je leur ai dit, s'il y a médiatisation, c'est vous qui en avez parlé. À l'extérieur, vous avez dû appeler l'intérieur, ministre de l'Intérieur socialiste ou je ne sais qui. Le pouvoir était en place pour avoir confirmation de ce qui se passait. Moi, j'ai complètement verrouillé parce que même mes enquêteurs ne savaient pas.
Ne savaient pas jusqu'au dernier moment, ouais.
Calmez-vous. Alors là, quand vous leur dites, c'est eux qui sont là, je dis pas. Bon, donc. Là, ça calme le jeu. On va dans un petit salon et on regarde les infos ensemble.
C'est incroyable. Vous vous retrouvez à côté des élus du Parti Socialiste
alors,
à regarder le 20h.
Toujours, parce qu'il y a le premier titre, c'était l'Algérie, parce qu'il y avait le vote en Algérie, donc premier tour. Et deuxième titre, la perquisition. Et là, ils me disent, là, je me fais à nouveau agresser. Vous vous rendez compte, deuxième titre, vous faites le deuxième titre. En gros, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, etc. Bon. Donc, il n'y a pas moyen de dialoguer. Donc, je sors de là. On va souffler, moi j'ai fait mon travail, je vais rentrer à Rennes et on va analyser tous ces documents tranquillement et on va en tirer les conséquences. Mais il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de presse, il y a une ambiance électrique.
Et qui a abouti à la condamnation d'Henri Emmanuelli.
Absolument, donc tout était justifié. Voilà. Bon.
Comment on se blinde pour se protéger de la déferlante médiatique ? Finalement, c'est étonnant parce que vous avez toujours tout fait pour lutter contre ça, mais vous avez quand même été à la une de l'actualité de très très nombreuses fois.
Oui, et en plus avec des gens qui vous accusent d'organiser les fuites.
Ouais.
Voilà, ça c'est un grand classique. Donc,
Vous protégiez de nous, journalistes ?
On met de la distance. Je crois que c'est important dans ces affaires médiatiques que les juges...
Facile à dire, mais pas si facile à faire. Hein.
Oui, mais attendez. Comme on dit, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Les médias, ils veulent des réponses tout de suite. Mmh. La justice, elle ne répond pas tout de suite. La justice, elle dit, attendez, il y a quelqu'un qui est mis en cause, très bien. Il a aussi ses explications. Il y a des vérifications à faire. La justice, elle prend le temps. Et il est normal qu'elle prenne le temps d'écouter, de vérifier. Et elle va en tirer les conclusions. Donc, elle va écouter ce qui se dit dans les médias, parce qu'on apprend des choses. Par exemple, l'affaire Cahuzac, elle a été révélée dans les médias. Mais, ok, c'est les médias. Moi, mon boulot, c'est de vérifier et d'amener l'affaire, si elle doit aller jusque-là, en jugement, en ayant absolument fait toutes les vérifications qu'il fallait faire. J'ai des pouvoirs, je vais les exercer, mais dans la recherche de la vérité et avec le maximum d'objectivité, donc de recul.
Recul.
Par rapport à la presse et à l'opinion publique, c'est très important.
L'un de vos grands combats, c'est la lutte contre les paradis fiscaux. Vous y consacrez plusieurs chapitres. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent sale dans les paradis fiscaux. Et cet argent se déplace. La solution, c'est quoi ? C'est d'arriver à une coopération mondiale de la part d'absolument tous les pays, sans exception. Et est-ce que c'est vraiment possible ?
Il faut les éradiquer. Voilà.
Comment ?
Attendez, les sanctions commerciales, l'interdiction de commerce, de commercer, ça existe. Bon, comment vous expliquer qu'un pays comme Dubaï, ça ne vous serait pas venu à l'esprit, paradis fiscal, a priori Dubaï, mais Dubaï, je peux vous le dire par expérience, ayant passé 20 ans au pôle financier avec mes collègues, Dubaï, ils ne répondent pas aux demandes d'investigation. Donc, les gens ne sont pas extradés, qu'on recherche, qui vont se réfugier. Donc, vous avez de l'argent sale, vous réfugiez à Dubaï, vous ouvrez des comptes à Dubaï, vous êtes tranquille.
Mmh.
Voilà. Donc, on n'est pas capable, les grands pays ne sont pas capables, le G20, de dire à Dubaï, maintenant vous coopérez, vous jouez la transparence, sinon on vous élimine commercialement.
Et pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils n'y arrivent pas ?
Parce qu'il n'y a pas de volonté politique réelle. Il y a des avancées, notamment avec l'OCDE, etc. Il y a les Américains aussi ont fait des avancées, mais enfin, regardez aux États-Unis, paradis fiscal, le Delaware. C'est un État des États-Unis. Mm. Prenez la Grande-Bretagne, la City de Londres.
Mm.
Bon, donc, c'est une vaste hypocrisie, et c'est regrettable parce que vous prenez, par exemple, des pays africains, vous avez la corruption à grande échelle, hein, vous avez de l'argent qui est pillé dans ces États et qui va dormir auprès de la famille de potentats ou leurs proches en Suisse ou ailleurs, ou à Dubaï. Et pendant ce temps-là, les gens meurent de faim. Enfin, arrivera un jour quand même sur cette planète, il faudra se dire, il faudrait peut-être quand même prendre traiter le sujet. Et on peut le traiter, c'est une question de volonté politique internationale. Voilà, il faut une régulation mondiale. Ça, c'est mon côté communiste. J'avais un père communiste, vous savez, donc ça revient quelque part. Une régulation mondiale pour rééquilibrer tout ça, parce que franchement, ça ne va pas du tout.
Aujourd'hui, vous vous battez aussi pour que soit inscrit dans le marbre l'indépendance de la justice. Une réforme qui donnerait enfin au parquet son indépendance. Pensez-vous qu'Éric Dupond-Moretti réussira à la mener à bien, cette réforme ?
Elle n'est pas entreprise.
Il avait promis qu'il essaierait de le faire, en tout cas.
D'accord, mais bon, vous voyez quelque chose ?
Donc vous n'y croyez pas ?
Moi, je crois ce que je vois. C'est ma déformation professionnelle. J'écoute ce qu'on me dit, mais je regarde. Qu'est-ce que vous faites ?
Dans un instant, on se retrouve pour le rappel des titres et votre météo. Et on se quitte pour cette pub sur Rachmaninov.
Le journal inattendu sur RTL, avec Renaud Van Runbeek et Ophélie Meunier.
Il est 13h01 sur RTL.
Le journal inattendu de Renaud Van Ruynbeck.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Jusqu'à lundi, 6h du matin, les villes de Nice et de Dunkerque seront confinées. Pas d'accès aux plages pour la ville des Alpes-Maritimes. Et depuis hier 18h, les rues de l'agglomération dunkerquoise se sont vidées. Pour s'assurer du bon respect de ces nouvelles restrictions, gros dispositif de police présent sur le terrain depuis ce matin. Je rappelle que 20 départements sujets à une flambée épidémique sont sous surveillance et pourraient eux aussi être confinés le week-end dès la semaine prochaine. Deux personnes de 19 et 27 ans se sont présentées à la police ce matin et ont été placées en garde à vue au lendemain du meurtre d'un garçon de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis. L'homicide a eu lieu hier en fin d'après-midi. Témoignage exceptionnel et exclusivité RTL, Valentin Boisset a pu joindre le professeur de boxe de la jeune victime. Cela faisait 3 ans qu'il était inscrit dans son club. Christophe Hamza est bouleversé.
J'ai son papa qui m'a appelé en me disant que Ayman avait pris une balle dans le thorax. Là, ça m'a détruit. J'ai pas dormi la nuit. Ça m'a détruit. Il venait à la maison. C'est un petit comme mon fils. Mon fils, il a 15 ans. C'est un échec pour moi. C'est un échec. C'était un enfant très, très posé, volontaire. Il n'avait rien à voir avec la délinquance. La boxe, pour lui, c'était très important. Ça lui apportait beaucoup de discipline, de rigueur et du partage. Il était toujours là. Il arrivait avant, il partait en dernier. Il voulait toujours bien faire. Le vendredi, c'est le jour où on s'entraîne. C'est l'heure de l'entraînement, normalement. Il y a pas de drogue, c'est des histoires de gamins, voilà, qui tournent mal. Des armes à feu et puis les gamins ils sont dans leur quartier, ils tournent en rond. Il y a un gros problème actuellement avec les jeunes. Il y a un très très gros problème.
Témoignage poignant recueilli par Valentin Boisset, un document RTL à retrouver en intégralité sur rtl.fr. Cette histoire à peine croyable. À 88 ans, un homme a été flashé à 191 km/h sur une départementale dans le Bas-Rhin. Et croyez-le ou pas, voilà la justification qu'il a donnée à la gendarmerie. Il était en retard pour son rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Du foot avec les affiches de cette 27e journée de Ligue 1 avec Dijon-Paris à 17h. Mais d'abord, le coup d'envoi de Bordeaux-Metz, c'est maintenant à 13h. Et c'est Denis Grandjeau qui suit la rencontre pour nous. Bonjour Denis.
Bonjour.
Comment se déroulent ces premières minutes de match alors?
Oui, 4 minutes 0-0 entre Bordeaux 11e et Metz 6e. 12 degrés, grand ciel bleu et aucune occasion. Mais ça, c'est une habitude à Bordeaux. 0-0.
Merci Denis. En direct de Bordeaux, au cœur de l'actualité foot, ce sont ces grands changements à l'Olympique de Marseille. Le propriétaire du club vient d'annoncer un nouveau président en la personne de Pablo Longoria. L'enjeu, regagner le cœur des supporters marseillais notamment. Et puis, nouvel entraîneur également. L'éruptif Georges Sampaoli. Le prochain match de l'OM, c'est demain à 21h face à Lyon. Dans votre livre, Renaud Van Ruynbeck, on apprend qu'en dehors de vos heures de travail, vous teniez un potager. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Absolument.
Oui.
Absolument.
L'agriculture de demain est un sujet qui vous intéresse. Pendant le premier confinement, nous nous sommes rapprochés des productions locales, les fruits et légumes de saison, mais aussi nous avons découvert la joie d'entretenir un potager, en tout cas certains Français qui ne le faisaient pas du tout. Un retour à la terre qui est parfois difficile quand on manque de place. Pour votre reportage inattendu, vous nous emmenez en Alsace, où la start-up MyFood a créé des serres connectées pour que chacun puisse produire une grande quantité de fruits et de légumes en permaculture, avec un minimum d'espace. Les ventes de ces serres ont doublé l'an dernier. Yannick Collant, vous avez découvert ces potagers du futur à Molsheim.
Nous sommes ici dans une serre connectée familiale qui permet de nourrir une famille en légumes toute l'année.
400 kilos de légumes sur 22 mètres carrés seulement. Mathieu Urban, l'un des fondateurs de MyFood.
On a commencé à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne tournaient pas vraiment très rond sur l'alimentation. Et en fait, on s'est dit c'est par le citoyen que ça va se passer. Et ça va être par l'agriculture citoyenne avec les gens qui ont envie maintenant de refaire leur propre nourriture par eux-mêmes. On s'est dit on va leur redonner la possibilité de le faire.
Le secret, c'est ce bruit d'eau que l'on entend au milieu de la serre. Un bassin avec des poissons rouges et au-dessus, des colonnes de légumes qui poussent à la verticale. Les explications d'Anne-Cécile Dejaude, la responsable marketing de MyFood.
Avec un système de pompe, on a l'eau qui remonte en haut de la serre et qui redescend dans des tours de culture. Et donc l'eau, avec les déjections des poissons, est redistribuée aux plantes. Et les plantes, à leur tour, avec leurs racines, filtrent l'eau. Comme ça, elle retombe purifiée pour les poissons dans les bassins. Et c'est un cercle vertueux puisque les poissons rendent service aux plantes et les plantes rendent service aux poissons. Cette serre, elle demande à peu près 1h30 d'entretien par semaine. Donc en fait, ça permet à tout le monde de le faire sans être maraîcher.
Et même en plein hiver, les colonnes de légumes sont déjà pleines.
On a des aromates, des choux, des laitues, des salades. Tout ce qui est aérien, ça pousse très très bien dans les tours de culture. Et puis bon, à l'été, on aura des tomates, des aubergines, des courgettes, des fraises.
On récupère l'eau de pluie et on peut quasiment être autonome en eau vu qu'on utilise 90% moins d'eau que du jardinage ou du maraîchage. Et ça, ça va vraiment devenir un enjeu ces prochains temps.
Et pour que chacun puisse faire pousser ses légumes, le système a été adapté en différentes tailles.
Une petite serre de terrasse, donc 3,5 mètres carrés. Et en ville, c'est complètement possible parce que cette serre-là que vous voyez, en fait, finalement, on peut la mettre sur une toiture, sur un parking, sur un sol bétonné, sur un sol pollué. Puisqu'on est en culture hors sol, on peut se mettre n'importe où à partir du moment où il y a de la lumière et que le sol est plat.
Mathieu Urban, qui regrette que cette agriculture en autoproduction ne soit pas plus démocratisée aujourd'hui, et il a une question à ce sujet pour Renaud Van Rijnbeeck.
Donner aux citoyens la possibilité d'avoir une alimentation locale, fraîche aujourd'hui, ces solutions-là ne sont pas aidées. Alors est-ce que ça serait peut-être une forme de justice sociale d'aider les citoyens à ça? Donc je pose la question.
Bah oui, bien sûr. Mais vous savez, si j'étais dans votre région, j'irais vous voir parce que moi, je fais partie de ceux qui ont. Bah, alors, j'ai du temps. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai un jardin. Je me suis lancé dans la permaculture. Mais quelquefois, ça prend et d'autres fois, ça prend pas. Donc, j'aurais vraiment oui. besoin de conseils éclairés. Et je suis d'accord avec vous. C'est bien cette idée que les gens puissent, s'ils ont un petit bout de jardin, qu'ils puissent produire eux-mêmes. Ça demande du temps et puis surtout, il faut savoir faire. Voilà. Mais c'est excellent votre expérience. Moi, je trouve. Et puis, voyez, vous avez pas. J'ai entendu 400 mètres carrés. Les agriculteurs ne réalisent pas. Beaucoup n'ont pas réalisé qu'avec des petites surfaces, avec la permaculture, donc une culture sans produits, sans rien, on arrivait à des résultats très étonnants et bien supérieurs à l'agriculture intensive où on balance du glyphosate ou je ne sais quoi.
On est très content, grâce à vous, d'avoir découvert cette start-up MyFood. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et jusqu'au 7 mars, c'est une semaine consacrée au monde agricole sur RTL avec de nombreux programmes spéciaux. Dans un instant, on reçoit votre premier invité, Renaud Van Rijnbeeck, la pianiste Shani Di Luca, qui interprète ici Roman sans parole de Mendelssohn. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Renaud Van Rijnbeeck et Ophélie Meunier. RTL, le journal inattendu.
La mélodie hongroise de Schubert. Bonjour, Shani Di Luca. C'est vous qui interprétez cette jolie mélodie hongroise de Schubert. Vous l'avez choisie spécialement pour Renaud Van Rijnbeeck.
Tout à fait, puisque Renaud la joue lui-même. Et on avait eu des échanges sur cette mélodie hongroise, sur la subtilité de la main gauche, de la pédale. Et c'est vrai qu'on ne sait pas à quel point Renaud est talentueux et sensible par rapport à la musique.
Et vous allez nous aider à le découvrir, justement. Shani Di Luca, vous êtes pianiste virtuose, soliste, invitée de nombreux orchestres. Vous avez collaboré avec de grands artistes, Nathalie Dessay, Michel Portal, Sophie Marceau, Charles Berling. On vient de vous entendre donc interpréter cette mélodie hongroise. Comment vous êtes rencontrés tous les deux au départ ? Parce que vos métiers étaient éloignés sur le papier.
Par une amie commune,
oui.
Qui était avocate, jeune avocate, avec laquelle j'ai donné un concert dans le palais de justice pour une association, et qui m'a dit qu'elle était grande amie de Shani, et elle a organisé très vite, on s'est retrouvés à un café, à prendre le café ensemble, et on a sympathisé.
Alors cela vous semble évident de dire que vous avez donné un concert, mais pour nos auditeurs, je pense que ça ne l'est pas du tout. Donc je précise que vous adorez, vous êtes même passionné de piano depuis l'âge de 8 ans, je crois. C'était votre première rencontre avec le piano. Et il a occupé une place centrale, ce piano, tout au long de votre vie. Et Shani est capable de nous dire que vous êtes exceptionnellement bon au piano en comparaison avec le temps de pratique que vous y passez.
Oui, tout à fait. J'ai entendu jouer donc plusieurs fois. On a même déchiffré ensemble la fantaisie de Schubert. Et une de nos premières conversations était sur Beethoven, la Passionata, sur justement une cadence. C'est des œuvres très exigeantes. Et Renaud joue du grand répertoire en concert. Il est très homme par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'étais absolument effarée par non seulement la qualité technique, mais surtout par la sincérité et l'intégrité qu'il met dans chaque note et qui me fait croire que c'est exactement la même démarche dans la vie, qu'il n'y a pas de hasard.
Renaud Van Rijnbeeck, on va vous entendre, vous, interpréter Clair de Lune de Debussy. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire, Chani, en entendant ces notes-là ?
Mais je crois que Renaud a une fenêtre sur le rêve et sur l'ailleurs. Et c'est peut-être pour cela qu'il a eu autant aussi d'équilibre par rapport à son métier. Je ne suis pas capable de me rendre compte de la qualité de sa carrière. Je ne peux qu'admirer. Mais au piano, je sais que chaque note est vécue et habitée. Et je dirais, comme dirait Proust, en fait, je pensais au potager. Il fait partie de ces jardiniers qui font fleurir l'âme. Et le fait de lier, pour moi, il y a du sens entre la quête de vérité dans la musique ou dans l'art et la quête de vérité dans la vie. Je crois qu'il y a un vrai lien. Et en ça, Renaud est exceptionnel.
Vous confirmez ? C'est splendide, hein, ce qu'on entend sur vous. On découvre un tout autre homme, là.
Oui, mais Chani est une amie et... J'écoutais tout à l'heure. J'écoutais tout à l'heure la mélodie hongroise de Schubert et elle fait ce que je suis incapable de faire, c'est-à-dire elle a une spontanéité, Mais oui, j'ai le rêve. Oui, c'est vrai.
En tout cas, vous assistez Chani au concert de Renaud van Ruynbeck et évidemment Renaud van Ruynbeck, vous assistez aussi au concert de Chani à Caen. Un moment ensemble en concert.
Alors on a partagé un concert à Nantes.
Mains.
Et c'est vrai qu'on a aux répétitions, Renaud était très consciencieux, très concentré, vraiment une attitude très professionnelle. Donc il est trop humble parce qu'il a une démarche très respectueuse de ce métier. Donc vraiment, c'est admirable.
On a une petite surprise pour vous, Renaud van Ruynbeck. On a quelqu'un au téléphone avec nous qui pourra aussi nous dire à quel point vous avez été, en plus d'être un bon pianiste, un bon élève. Bonjour Laurent Cabasso.
Bonjour.
Vous êtes le professeur de piano de Renaud van Ruynbeck.
Écoutez, j'ai eu la chance et l'honneur de le faire travailler effectivement assez régulièrement.
Alors, quel élève est-il, Renaud ?
Écoutez, moi, tout ce que disait la Chani Di Luca, et je peux le confirmer, c'est particulièrement émouvant pour nous, les musiciens professionnels, c'est de voir que cette capacité de se concentrer et de donner un message toujours sincère quand il joue. Alors dans le travail, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a une énorme facilité d'assimilation, une très grande réactivité. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose, c'est très rapidement mis en pratique, y compris des choses parfois très complexes.
Laurent Cabasso, vous me disiez que s'il n'avait pas fait ça, et ça rejoint un petit peu ce que disait à l'instant Chani, il n'aurait pas pu faire ce métier. C'est-à-dire s'il n'avait pas autant joué au piano, vous me disiez que Renaud n'aurait pas pu faire aussi bien ce métier de juge d'instruction.
C'est ce que lui-même, à plusieurs fois, m'a révélé. Et je dois dire que, pour nous, les citoyens que nous sommes, c'est important, je trouve, de savoir qu'une personnalité aussi importante que Renaud à cette vie intérieure, on peut dire. Voilà ce que j'ai envie. Je trouve que c'est très rassurant pour nous, pour
J'imagine
les citoyens.
Que vous confirmez, Renaud van Ruynbeck, que ça a été central, essentiel, la place du piano dans votre carrière aussi. Un échappatoire. On parle de moments très très difficiles au début de ce journal inattendu que vous avez vécu.
C'est une vraie soupape parce que vous écoutez ces grandes œuvres. Plus rien n'existe. Donc, quand vous êtes dans le piano, vous y croyez. La sincérité, oui, je suis sincère. Je m'échappe complètement, je fais le vide. Et je pense que ça contribue à l'équilibre, évidemment. Après, on peut mettre un peu de distance, on revient à son travail, c'est autre chose. Mais je crois que vous savez, la musique, elle s'impose par elle-même. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est beau. Voilà. Donc, elle vous touche directement.
Chani Di Luca, être pianiste, vous allez me le confirmer, c'est aussi un métier d'émotion, hein, parce que vous donnez beaucoup de vous-même. Être juge d'instruction, c'est tout sauf un métier d'émotion, il faut les mettre un petit peu de côté. Comment on fait pour allier ces deux passions, finalement, la passion de la justice et la passion de l'émotion à travers le métier de pianiste ?
En tout cas, je pense à la phrase de Platon qui dit que la musique donne des ailes à la pensée. Et je crois que c'est là où l'équilibre subtil et invisible se fait. Et je peux vraiment comprendre que toute la vie est un équilibre entre le matériel et l'immatériel. Et si on a les deux, je crois que c'est peut-être qu'on est dans une certaine justesse. Et j'ai l'impression que Renaud a atteint cet équilibre à ces deux niveaux.
J'ai essayé.
Laurent Cabasso, merci pour ce petit clin d'œil et surprise. Votre nouvel album consacré à l'intégrale des sept toccatas de Jean-Sébastien Bach sort le 12 mars prochain. On écoutera ça avec grand plaisir. Jenny Diluca, merci à vous. Votre prochain album sort en octobre autour de Proust et des compositeurs cités dans La recherche du temps perdu, avec la participation de Guillaume Gallienne et de Nathalie Dessay. Et vous serez en concert au Théâtre des Champs-Élysées. On croise les doigts absolument. En novembre, nous sommes impatients de retrouver les concert. Merci beaucoup d'avoir été ici pour Renaud. Renaud, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je voudrais dire qu'aujourd'hui, que je suis à la retraite, je travaille avec un professeur qui est à la retraite, Hubert Guillard, qui est superbe, qui me donne confiance, qui essaye de me retirer un peu vers le haut, que je n'atteindrai évidemment jamais.
Et je voulais juste te dire que oui. Laurent Cabasso est un très grand pianiste, un très grand musicien, que j'invite tout le monde à écouter ses albums parce que c'est vraiment quelqu'un de modeste. Mais c'est un très grand musicien.
Oui. On va l'entendre.
Il a son nouveau CD. Pardon, je peux.
Oui, bien sûr.
Il va sortir un CD sur les toccatas de Bach. J'ai vu ça tout à l'heure.
C'est ça, le 12 mars, mars prochain. Magnifique. Et on va entendre Mazeppa de Liszt.
Ah. Oui.
Orgue et piano. Et c'est un morceau que vous avez choisi délibérément, hein, Renaud von Rundbeck.
Ah ben c'est beau, c'est du grand liste
préféré.
C'est une belle transcription.
Merci à tous les deux.
Merci.
À toutes ces sur RTL pour la suite du journal inattendu de Renaud von Rundbeck.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Renaud von Rundbeck et Ophélie Meunier. Le journal inattendu sur RTL.
Excusez-moi, Majesté, mais peut-on me dire quelles sont ses vertus?
Éclairez-le, Mazar.
L'amour, sire.
L'amour, bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des choses de l'amour.
Non, vous en ignorez tout. Enfin, si on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles si égosillent, des couples gras et stupides roulent des yeux exorbités. Rien à voir avec l'amour, ce n'est que pure foutaise.
Un extrait du film Amadeus, l'un de vos films préférés. Au vu de l'échange que l'on a eu avec vos précédents invités, on le comprend. Un autre de vos refuges, c'est la littérature. Pour votre journal inattendu, vous avez choisi de recevoir l'écrivain multi-récompensé Laurent Godet. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Ophélie.
Merci
bonjour,
d'être avec
Renaud.
Nous.
Bonjour,
le Laurent. Point de départ de votre rencontre, cela a été une de vos nouvelles, Laurent Godet, Tombeau pour Palerme, qui raconte les histoires des assassinats des juges Falcone et Borsellino, un livre qui vous a particulièrement touché, évidemment, Renaud von Rundbeck.
Oui, parce que Laurent a le sens de la littérature, c'est-à-dire qu'il vous emporte, il vous transporte. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Parce que sa nouvelle était donnée dans un théâtre, je crois que c'était le théâtre des Lilas, un petit théâtre et tout. Et c'était un grand, avec Pascal Guin, qui est un comédien. Et c'était un moment fort, et depuis on a sympathisé. Et je connaissais Laurent à travers, j'avais lu Le Soleil des Scorta, et j'avais adoré. Voilà, donc j'étais très ému et très touché de pouvoir le rencontrer.
Et donc cette rencontre, c'était en 2016. Alors Laurent Godet, quel homme vous avez découvert?
J'étais très impressionné ce jour-là parce que je devais poser des questions à Renaud, en fait, sur le plateau à la fin du spectacle, pour le faire parler de son métier.
De son métier, bien sûr.
C'est pas facile de poser des questions à Renaud von Rundbeck, mais ça a été un très beau moment, je crois, pour tous les deux. Et puis, j'ai besoin d'admirer, en fait, pour écrire. Et je sais que, je sais pas si ça sera le cas, mais Renaud est quelqu'un, l'admiration, elle vient très vite. Et ça pourrait être un héros de fiction. Ça pourrait être, le héros d'un petit texte, parce que c'est vrai qu'il a cette... J'ai découvert à la fois un homme, comme on l'entend là depuis le début de l'émission, extrêmement rigoureux dans son métier, probablement très méthodique, archi compétent, mais en même temps c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, qui est totalement du côté de la vie. On l'a entendu avec la musique, on l'a entendu avec le potager, avec l'OM. Je crois que ça rend bien compte de ça. C'est Renaud, elle, je crois, aime profondément la vie et on le ressent beaucoup. Alors, je suis pas sûr que ce soit le cas quand on est dans son bureau de juge d'instruction, mais moi, c'était pas mon cas.
Alors, Laurent Godet, il paraît que vous avez partagé un moment cocasse, tous les deux, un dîner organisé pour que vous, Renaud Van Ruynbeck, vous rencontriez Charles Berling, qui a joué votre rôle dans le film L'Enquête. Ça fait quoi de rencontrer le comédien qui va jouer votre vie?
C'est impressionnant. Mmh. C'est impressionnant parce que Charles Berling est un grand acteur et c'est. J'avais pas voulu au moment du film parce que quand ils ont fait le film, ils m'avaient contacté, ils voulaient me rencontrer. Je voulais pas. J'avais peur quelque part. Donc grâce à Laurent, il y a eu ce dîner où les masques tombent subitement.
Laurent Godet, je sais que vous avez lu Mémoire d'un juge trop indépendant. Alors, d'un point de vue littéraire, j'aimerais l'avis de l'écrivain. Et là, Renaud Van Ruynbeck est inquiet.
J'ai peur.
De l'écrivain sur le livre.
Non, moi, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Je pense, j'imagine à quel point ça a dû être compliqué pour Renaud, il en parlait. Parce que ce qui me frappe, c'est qu'au fond, je ne connais pas grand-chose en justice. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en fait, Renaud est un homme d'histoire. Toute sa vie, il a plongé dans des histoires. J'imagine qu'ouvrir un dossier, c'est aussi se dire comment est-ce que je vais la déplier, cette histoire. Comment est-ce que je vais la raconter, me la raconter à moi-même pour la comprendre. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est très habitué à ça, à la question de la vérité, de la fiction, du mensonge, du déroulé aussi chronologique. Et quand il a dû, j'imagine, le faire avec sa propre vie, ça a dû être assez vertigineux. Moi, je trouve que le résultat est très beau parce que ce qu'on entend depuis le début de cette émission et ce que disait Chani, ce que je dirais très volontiers aussi, c'est ce qui prime, c'est la sincérité. C'est un homme sincère, Renaud, je crois. Humble et sincère. Et je crois que quand on écrit, c'est beaucoup plus important que la politesse, par exemple. La politesse n'a rien à voir dans l'écriture. Il faut être sincère, il faut dire les choses. Et c'est ce qui existe dans son livre, le Mémoire d'un juge trop indépendant. Je pense qu'on entend sa voix réellement, avec ses doutes, ses colères, ses enthousiasmes. La difficulté, c'est que comme il écrit un livre, il faut qu'il construise cette chose-là. Et moi, je trouve que c'est très bien fait. Il y a un exemple dans le prologue qui m'a beaucoup frappé. C'est vrai qu'il commence par raconter ce dont vous avez parlé, l'affaire Boulin. Mm-hmm. Et puis, ça se termine par j'ai 27 ans, point. C'est-à-dire qu'on arrive, justement, on a la concentration du problème. Comment est-ce qu'on fait tout ça à un âge pareil? Mais ça, c'est une construction littéraire. Il l'a très bien fait.
Voilà. Rassuré, Renaud Van Ruynbeck.
Oui, mais c'est un ami, donc son contrôle ne peut pas être objectif.
Merci beaucoup, Laurent Godet. Votre dernier livre, Paris Mille Vies, est disponible aux éditions Actes Sud.
Merci Laurent.
Ça donne envie de lire Mémoire d'un juge trop indépendant et je le recommande aussi. C'est aux éditions Taillandier. Si vous nous rejoignez, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application RTL. On se quitte sur un morceau interprété par Chani Di Luca, Papillon d'Edouard Grieg. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré à Marilyn Monroe. Bon week-end à tous, à samedi prochain, 12h30 avec mon invité, Julien Clerc.
RTL, le journal inattendu. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.